Plus on parle de Christian Boltanski, moins il existe. C'est vous qui le disiez, c'était en 84, une déclaration qu'on pourra peut-être méditer à la lumière de votre actualité inflationniste. Deux expositions, Personne, dans le cadre de Monumenta au Grand Palais, un théâtre d'ombre intitulé Après, ça c'est au Max Vall.
Ce n'est pas un théâtre d'ombre.
Non, ah, on va revenir là-dessus. Je sais, ce n'est pas un théâtre d'ombre, mais c'est aussi peut-être comme ça qu'on peut le définir. Dites-moi
non,
tout de suite, oui.
Parce qu'il devait y avoir une troisième partie qui ne s'est pas réalisée, qui était dans un petit village du centre de la France, au sud de Dijon, en Bourgogne. Et là, c'est un théâtre d'ombre.
Là, c'était un théâtre d'ombre.
Oui.
Et alors, en quoi ça consistait, ce projet
fantomatique ?
C'est
un projet qui existe déjà et qui s'est agrandi récemment, qui est une projection d'ombre sur les maisons de ce village médiéval, qui est un petit village très, très joli. Et donc, il y a déjà plusieurs années, on m'avait demandé de m'occuper de l'éclairage public. Et donc, au lieu de m'occuper de l'éclairage public, j'ai projeté des ombres de sorcières, de gentils petits squelettes sur les maisons. Et récemment, j'ai agrandi ce travail. Et donc, je me disais, bon, ce serait bien qu'il y ait un troisième acte à mon travail.
À cette dramaturgie. Donc, en effet, c'était conçu. C'est pour ça que le terme théâtre était apparu. C'est construit en deux actes pour l'instant, les deux expositions, et donc manquait ce troisième acte. Donc, il y a toute cette actualité, une série de publications. On citera entre autres la monographie de Catherine Grenier chez Flammarion, un film, Les Vies Possibles de Christian Boltanski, qui a été diffusé le 18 janvier dernier sur Arte. Trois projets permanents sont en cours, dont la vente en viager du film de votre vie quotidienne dans votre atelier, sans oublier le pavillon français à la prochaine biennale de Venise, la conférence que vous venez de donner cet après-midi au Louvre, l'émission Tout arrive dans la porte sur France Culture. Vous allez bien, Christian Boltanski?
Je suis un peu endormi, je dois dire. un peu effondré. Et en même temps, j'ai le problème de faire beaucoup d'interviews, c'est qu'on se vide et on se fait honte soi-même. C'est-à-dire que le fait de répéter toujours les mêmes choses, il n'y a pas de raison de dire une chose tout à fait différente de ce qu'on pense, fait que cette chose a de moins en moins d'existence. Et comme si on y croyait de moins en moins. Et donc je me suis dit qu'il devait être extrêmement dur d'être un homme politique parce qu'ils font ça tout le temps et comment ils peuvent y croire après?
Toujours pas d'assistant pour mener de front tous ces projets?
Non, ça je m'y refuse complètement. Je ne peux pas dire, au Grand Palais, il y a eu des gens qui ont travaillé.
Ça,
parce
ça n'a rien
que,
à voir, bien sûr.
Mais je n'ai pas d'assistant personnel, ni assistant, ni secrétaire, ni ce que... Bon, il y a un mot que je déteste, bureau.
Vous êtes quand même un des rares artistes de votre envergure à ne pas avoir d'assistant, en fait.
Je pense que l'assistant tue l'art contemporain. Moi, je travaille très peu, j'ai extrêmement peu d'idées. Et je passe le plus clair de mon temps couché à regarder la télé. Donc, si j'avais un assistant, il faudrait forcément que je lui donne quelque chose à faire. Et comme je n'ai pas de nouvelles idées, il faudrait qu'il répète quelque chose que j'ai déjà fait. Et puis, il faudrait le payer, donc il faudrait que je vende ça. Donc, j'entrerais dans une sorte de cercle vicieux de répétition-vente qui est très, très destructeur. Alors que là, ayant peu de frais, le meilleur moyen de ne pas dépenser, c'est de rester couché. Je n'ai pas cette obligation de travailler. Et donc, je suis totalement libre de faire ce que j'ai envie de faire.
Alors, ce que vous faites actuellement, donc, c'est une exposition en deux actes, le troisième étant simplement une ombre. On va d'abord aller au Grand Palais. Donc, la travée centrale est occupée par des vêtements posés au sol qui dessinent des allées perpendiculaires. Chaque tas est éclairé par des néons, on retrouve votre vocabulaire, encadré par des piquets de métal sur lesquels sont fixés des petits haut-parleurs qui diffusent l'enregistrement de vos battements de cœur.
Ça... Ce n'est pas mes battements de cœur.
Ah.
C'est des cœurs suédois. D'ailleurs, vous avez peut-être reconnu.
Oui, c'est vrai, je me suis demandé, c'est bizarre, ils ont un côté complètement étranger.
Voilà.
Pourquoi cette précision, Christian Boltanski? En effet, on a cru que c'était vos battements de cœur.
C'est des cœurs à chaque fois différents, qui ont des rythmes différents. Il y a toujours beaucoup de monde dans mon travail. Et là, je voulais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde au Grand Palais. Je ne parle pas des visiteurs, naturellement. Et là, il y a 400 cœurs suédois. Mais je possède 5000 cœurs suédois, donc c'est une petite partie des cœurs suédois que je possède.
Pourquoi avoir pris précisément donc ce rythme suédois pour cette exposition au Grand Palais?
C'était un peu le hasard. J'ai tellement de cœurs qu'il s'est trouvé que la clé d'ordinateur, la première devant moi, était des cœurs suédois.
Vous êtes sûr que c'est ça?
Il y a une chose tout à fait spéciale pour les chœurs suédois qui me touche beaucoup, c'est que, mais il n'est pas là. Parmi tous les chœurs suédois, il y a un chien. Parce que la fille qui s'occupait de la cabine de chœur me téléphone en disant « Il y a un homme qui aime tellement son chien, il me supplie qu'on enregistre son chœur. » Et j'ai dit « Bon, il y aura un chœur bizarre, donc il y aura 4999 chœurs suédois plus un chien suédois. » Donc je me dis que comme les chiens ont un chœur qui bat d'une manière différente, si un jour un médecin regarde vraiment ça à la loupe, il va dire « Celui-là, il était très très malade. »
Alors, côté escalier, une gigantesque pyramide de vêtements, 10 mètres à peu près, sur laquelle une grue, une sorte de main de Dieu, va venir piocher au hasard avant de relâcher sa prise sur cette même montagne de vêtements. Donc, tout le vocabulaire de Christian Boltanski est là. On part maintenant du côté du Macval à Vitry avec vous, Manu.
Pour le deuxième acte, donc ça c'est après, à Vitry-sur-Seine, donc scénographie toujours, qui n'est donc pas un théâtre d'ombre, mais qui se déroule un peu sur le mode d'une conversation avec l'au-delà. Plongé dans le noir, le spectateur va cheminer dans une sorte de labyrinthe de cloisons noires, vibrantes, brillantes.
Oui.
Et il va y rencontrer des personnages qui sont en fait des sortes de silhouettes de bois qui murmurent quand on les frôle et qui posent des questions au fond sur le passage vers la mort.
C'est après. Hein.
Après, oui.
C'est après, oui. C'est après. Après, après, c'est l'après.
Avoir en deux temps. Donc après, c'est-à-dire, personne.
Voilà. C'est-à-dire les questions qui sont posées aux personnes qui sont mortes. As-tu perdu ? As-tu laissé un amour ?
As-tu un accident ? As-tu souffert ? As-tu chié sous toi ? Enfin, des choses comme ça. Bon. Et il est certain que c'est tout même après plus confortable qu'avant. Il fait plus chaud au Macval qu'au Grand Palais.
Pour le visiteur, vous voulez dire ?
Pour le visiteur. Après, on est calme. On est reposé après. On se détend. C'est pas très drôle, d'accord. Mais c'est dommage, il y a beaucoup moins de tension. C'est une sorte de paix. Et je trouve que c'est un endroit relativement heureux. Je raconte toujours cette histoire, mais c'est un ami qui m'a raconté ça pour la mort de son père. Vous savez que quand on va prendre l'avion, on a peur de perdre ses tickets, on a peur qu'un bagage soit oublié, on a peur de ne pas entendre la voix qui vous appelle. Et puis, l'avion part, et là, on est enfin en paix. Et là, les personnes qui vous posent ces questions sur le passage, c'est un peu les hôtesses de l'air. C'est entre des anges et des hôtesses de l'air. Parce qu'ils sont très joyeux, en vous posant ça, ils sont très aimables et très joyeux. Donc c'est comme une sorte de joyeux questionnement.
Juste une question technique par rapport à ce passage et à ces hôtesses de l'air de façon métaphorique. Parce qu'on a fait l'expérience avec Manu Farine et toute l'équipe d'ailleurs du rendez-vous quand on est allé au Macval. Est-ce que c'est quand on passe devant que la voix arrive ou alors est-ce qu'il faut se poster et la voix se déclenche parce que l'on s'est arrêté ?
Il y a un œil électronique qui détecte les mouvements.